Capi, grand témoin.
Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Raoul Yema Dielala, ancien journaliste et ancien diplomate. Monsieur Yema, merci d'avoir répondu à notre invitation.
J'en suis très honoré.
Avec vous, dans notre entretien, nous allons vous présenter auprès des auditeurs de Radio Capi, qui est monsieur Raoul Yema Dielala. Vous avez travaillé comme journaliste, chroniqueur de musique, diplomate, ancien diplomate. Vous avez travaillé dans la territoriale, dans l'administration publique. Les détails dans notre entretien. On va commencer par une petite biographie, parler un peu de votre enfance, de votre passé. Vous êtes né où et quand ?
Moi, je suis Kina de souche. Quand j'ai dit de souche, c'est parce que mes parents étaient Kina et mes grands-parents aussi. Donc,
vous êtes né à Kine.
À Kine.
Vous avez grandi à Kine. Vous avez passé toute votre enfance à Kine.
J'ai fait l'école primaire et secondaire à Kine et ensuite seulement je suis parti à l'étranger pour des études supérieures.
Alors vous êtes né en quelle année ?
En 1946. Je suis vieux.
Ça se voit pas. On est jeune jusqu'à 77 ans.
Il paraît.
Vous n'avez pas encore atteint cet âge, donc on vous considère comme jeune.
C'est un compliment, merci.
Vous dites que vous avez poursuivi vos études universitaires à l'étranger.
À l'étranger, à l'université de droit, d'économie et des sciences sociales de Paris. À Paris 2, qu'on appelle communément ASSAS.
Et pourquoi vous avez préféré aller étudier à l'étranger, faire votre université à l'étranger ?
Oh, c'était simplement un concours de circonstances. Hein. Je ne l'ai pas désiré comme ça, mais c'est arrivé.
Vous ne l'avez pas désiré, mais c'est arrivé ?
Oui, c'est arrivé.
On vous a obligé à y aller ?
Non, personne. Les circonstances peut-être m'ont obligé, mais moi...
Vous avez fait quel genre d'études aux humanités ?
J'ai fait le maths physique. Curieusement, je m'intéresse aux lettres, mais j'ai fait les maths physiques.
Vous avez fait les maths physiques, vous vous intéressez aux lettres. À l'université, vous avez fait le droit. Vous avez un diplôme en droit, en économie.
En sciences de l'information.
Alors, trois diplômes, vous les avez tous eus au même moment ?
Vous savez, en France, c'est un peu facile par rapport à Kinshasa, par exemple, où il faut terminer une option pour faire une autre. En France, ça peut se faire pratiquement au même moment.
Mais ça ne devrait pas être facile. En même temps, vous suivez les cours des droits, d'économie et sciences sociales.
Dans l'université où j'étais... On appelle le DUG, hein, le diplôme d'études d'université générale, ce qu'on appelle ici le graduat. Et c'est une espèce de tronc commun, pour le droit, l'économie et les sciences sociales. Donc il n'y avait pas tellement d'options différentes. C'est au second cycle que les choses sont plus pointillées.
Est-ce que c'est un bon système ?
Je parie, hein, ça donne beaucoup de possibilités.
On devrait adopter ça ici chez nous ?
Si cela est possible.
Alors, dites-moi, quel est le souvenir qui vous a marqué dans votre enfance ?
Oh là là, beaucoup de choses. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est peut-être un peu l'esprit quinoa. Cet esprit de solidarité, de cordialité, de bon viveur.
Le quinoa, il est solidaire, jovial, il est bon viveur.
Sans vouloir offenser personne, le vrai quinoa, ils sont comme ça.
Et vous faites partie de ces vrais quinoas.
Le vrai quinoa.
Vous avez passé combien de temps à l'étranger ?
Oh, beaucoup de temps d'abord comme étudiant, ensuite comme diplomate.
Vous êtes parti avec votre famille ou bien seul ?
Quand j'étais diplomate, j'étais marié à cette époque, donc j'étais parti avec mon épouse. À l'époque, on avait juste un enfant, mais après, on en a eu d'autres. Donc, je vivais en famille.
On va parler de votre parcours professionnel. Vous avez débuté votre carrière professionnelle comme journaliste.
Oui.
C'était avant d'aller en Europe ?
C'était avant d'aller en Europe.
Après vos études humanitaires ?
Oui. J'avais commencé au journal Les Progrès. Bon, j'étais chroniqueur de musique, mais j'étais aussi reporter, parce qu'à l'époque, c'était un quotidien où il y avait à peine 6 journalistes et on devait paraître tout le jour. Donc, on devait faire à la fois le sport, les chiens écrasés, la politique, etc. Donc, mais ma spécialité, au départ, c'était la chronique musicale, mais après, j'ai tout fait. J'ai fait le grand reporter, j'ai fait le reporter parlementaire, j'ai fait un tas de choses.
Maths physique, on vous retrouve journaliste dans un quotidien quinoa. Comment expliquer ça ?
Peut-être parce que j'avais aussi la soif d'écrire. La soif de m'exprimer par l'écrit, et ça m'a...
Pourquoi vous n'avez pas fait la littéraire aux humanités, par exemple ? Ça facilite, il paraît.
Vous savez, quand on est enfant, on a beaucoup de projets en tête. Et moi, je voulais être ingénieur. C'est pour ça que j'ai fait les études de maths, mais je ne suis jamais devenu ingénieur parce que j'ai eu d'autres raisons de changer mes idées. Mais j'ai fait les maths physiques au départ parce que mon ambition était de devenir
ingénieur.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans le journalisme ?
Mais déjà au niveau des études secondaires, il y avait un hebdomadaire appelé Présence Congolaise. Et déjà élève, j'envoyais des petits articles qui, curieusement, était publié et j'ai pris du goût. C'est ainsi qu'après des études secondaires, je me suis lancé dans le journalisme.
C'était publié gratuitement ou bien moyennant quelque chose?
Je ne pensais pas à cela. Moi, ce qui me plaisait, c'était de voir ma signature paraître quelque part. Hein. C'était pas tellement le côté pécunier de la chose. C'était être connu comme journaliste.
Vous vous êtes lancé dans le journalisme, mais vous vous êtes beaucoup plus spécialisé dans la chronique musicale.
Bon, c'était peut-être une passerelle de départ, mais je me suis spécialisé plus tard parce que quand j'ai quitté le Progrès pour la Tribune africaine, j'étais alors devenu rédacteur en chef. Et
la Tribune africaine, c'était aussi un quotidien chinois?
C'était un quotidien du soir à Kinshasa. Et à cette époque, j'étais devenu un chroniqueur politique et je faisais des éditoriaux.
Qu'est-ce qui vous attirait dans la musique, dans la chronique musicale? Vous vouliez découvrir un peu la vie des musiciens?
Peut-être parce que j'aimais aussi la musique. J'étais très fanat de la musique à l'époque, ce qui se comprend bien quand on a 16-17 ans. Mais après, j'ai dû bifurquer, comme on dit.
C'était quel genre de musique qui battait son plein à cette époque?
Bon, il n'y avait pas tellement beaucoup de choix. Il y avait le rock jazz, l'African jazz, l'African fiesta, le conga succès, le negro succès, enfin ce genre de choses qui jouaient pratiquement des musiques qui sont voisines.
Mais apparemment, vous aviez un penchant pour l'oké jazz, parce que vous avez publié un ouvrage sur Franco.
Je l'avoue. Il faut dire que à l'époque même, déjà au niveau de l'école primaire, hein, on avait de ces petites discussions entre le Derryman, le Vita Clubien, le supporter de l'oké jazz et de l'African jazz. Moi, j'avais déjà cette option-là de supporter l'oké jazz, et au fur et à mesure que je grandissais, j'ai pris goût à cette musique de Franco. Et comme je connaissais personnellement déjà Franco, c'était un penchant pratiquement obligé.
Chroniqueur musical, grand reporter, vous êtes intéressé aussi à la politique. Après, la musique, c'est la politique.
Bon, la politique, en ce qui me concerne, c'est plutôt être observateur de la politique. D'ailleurs, c'est le rôle que me conférait mon métier de journaliste. Je n'étais pas acteur directement de la politique, je ne le suis pas pour autant aujourd'hui, mais je reste attentif à la politique de mon pays et peut-être bien à la politique étrangère.
Acteur de la politique, peut-être pas directement, mais indirectement, parce que vous avez travaillé dans la territoriale. Quand on est dans la territoriale, quand on est directeur des cabinets d'un gouverneur des provinces, c'est un peu de politique qu'on fait aussi.
Oui, on fait de la politique, oui, mais on est plutôt administratif.
Donc, vous avez été directeur des cabinets du gouverneur
Fouloukota.
Des 90 à 92. Ouais. Parlez-nous un peu de la ville de Kinshasa à cette époque-là. Kinshasa ressemblait à quoi? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont connu Kinshasa bien avant disent que c'était la belle ville, très propre, la ville d'ambiance. Aujourd'hui, Kinshasa ressemble à une poubelle, comme disent certains observateurs.
Je vais prendre un peu de recul et je ne serai pas aussi excessif. Je dirais simplement que Kinshasa a évolué dans un sens comme dans l'autre. Si on voit les dimensions de la ville, c'est devenu pratiquement un pays et la ville est devenue très grande. Et si on voit aussi le nombre de gens, la population, on est étonné parce que on ne fait peut-être pas attention. Mais si on voit la Belgique a 11 millions d'habitants, Kinshasa aussi, cela veut dire que le nombre de personnes qui est à Kinshasa, c'est le nombre de personnes qui est en Belgique. C'est quand même, je manque même d'adjectifs pour le dire. C'est quand même étonnant parce que cela suscite un certain nombre de problèmes, hein, de problèmes de circulation, de salubrité, de voirie, de promiscuité, beaucoup trop de problèmes parce qu'on est confiné dans un espace réduit par un nombre très élevé de personnes. Ça crée des problèmes et des solutions pour résoudre l'ensemble des problèmes de Kinshasa, c'est pas pour demain parce qu'il faut beaucoup d'argent, beaucoup d'idées et beaucoup d'initiatives.
Il y a une grande différence alors de Kinshasa de 90 et Kinshasa de 2012.
Oui, il y a une différence. Déjà, si je compare Kinshasa de 90 à Kinshasa de ma jeunesse, il y avait déjà une grande différence. Mais maintenant, bon, c'est certainement causé à la suite de l'afflux de population qui vient dans la ville parce que l'économie à l'intérieur du pays n'existe pratiquement pas et comme les gens ont besoin de vivre, ils viennent tous à Kinshasa croyant trouver là le paradis qu'ils espèrent, mais au contraire ça crée des problèmes énormes aussi.
Et vous dites que c'est pas aujourd'hui qu'on peut trouver une solution au problème de Kinshasa. Ça peut prendre beaucoup de temps.
Ça peut prendre beaucoup de temps et surtout beaucoup d'argent. beaucoup d'argent et beaucoup de
temps. Pour assainir la ville.
Pour assainir la ville, parce que déjà il y a le trois quarts de la ville qui n'est pas urbanisé. C'est pas urbanisé. Il faut tout créer, tout recréer. Là où c'était urbanisé, tout recréer, ça demande à casser, à reconstruire, à lotir. C'est beaucoup trop de choses.
Donc on ne peut même pas espérer que ça pourrait arriver un jour, parce que je vois...
Pour ceux qui croient en Dieu et croient au miracle, peut-être, mais pour ceux qui sont réalistes, il faut y mettre beaucoup de moyens et beaucoup de volonté. Il faut beaucoup, beaucoup d'argent pour rendre, pour donner à Kinshasa une image moderne.
Alors Raoul Yemadi Lala, vous avez été aussi ancien diplomate.
Oui.
À 26 ans déjà, vous étiez diplomate.
Oui.
Trop jeune quand même.
Bon, à l'époque, tous les cadres étaient jeunes.
Contrairement à aujourd'hui,
on a
c'est
mûri.
Difficile de trouver des diplomates à 25, 26 ans.
Mais aujourd'hui, on a mûri. C'est-à-dire que ceux qui étaient là il y a une bonne trentaine d'années ne sont pas encore partis, donc on a mûri.
Mais pourquoi on ne les change pas ? On ne renouvelle pas cette classe-là.
Mais il y a des dispositions légales. Une carrière a une durée déterminée. Généralement, dans la fonction publique, une carrière, c'est 30 ans. Mais après 30 ans, il faut la retraite. Qui dit la retraite, il faut...
Mais les gens vont rarement en retraite ici.
Parce que c'est lié au paiement du décompte final. Et souvent l'État, dans les circonstances actuelles, n'a pas le moyen d'envoyer les gens à la retraite à des périodes exactes et bien voulues.
Et c'est comme ça que les gens préfèrent continuer à travailler.
Peut-être qu'ils préfèrent pas, parce qu'ils savent pas comment faire. Partir à la retraite, gros gens comme devant, c'est quand même pas souhaitable, entre personne ne le souhaite.
Et donc vous avez été diplomate à La Havane, à Paris, à Addis Abeba, à Bangui.
À Bonn aussi, en Allemagne.
Ah d'accord, en Allemagne aussi.
Oui.
C'est un métier passionnant.
Très, très passionnant. Très passionnant par les rencontres qu'on fait, par les connaissances qu'on acquiert, par les possibilités qu'on a de s'exprimer. C'est un métier très intéressant.
Mais aujourd'hui, certaines personnes ou certains diplomates même se plaignent du fait que les diplomates congolais aujourd'hui sont clochardisés.
Cela est vrai et cela est affligeant. Je pense que le diplomate est celui qui représente le pays à l'étranger. Et son image doit être toujours, pour ne pas me répéter, représentatif. Il doit vivre dans les commodités qu'il faut, il doit avoir le moyen d'une vie moderne, surtout à l'étranger. Parce que quand on est en France, par exemple, on ne peut pas vivre comme on est à Kinshasa. Hein? Bon, donc il faut quand même donner à ces diplomates-là le moyen, les conditions de travail, tout doit être réuni pour qu'ils soient valablement représentatifs du pays qu'il est censé représenter. Je me répète encore une fois.
Même quand le pays n'a pas assez de moyens,
vous savez,
les diplomates exigent qu'ils soient mis dans de bonnes conditions.
Non, mais je trouve que c'est un prétexte. Parce qu'il y a des pays moins nantis que nous, qui ont moins d'argent que nous, qui ont moins de possibilités que nous, mais dont les diplomates vivent très bien à l'étranger. C'est une question d'option. Où on veut que son pays soit respecté à l'étranger, soit considéré à l'étranger, et on donne les attributs qu'il faut à des personnes qui sont censées le représenter, où on s'est dit on a des difficultés, on a d'autres priorités, et on néglige les diplomates, et comme j'aime pas après se plaindre que le pays est mal aimé, mal connu à l'étranger.
Vous avez passé combien de temps dans la diplomatie ?
Ou une vingtaine d'années.
Vous avez gardé sûrement des bons souvenirs de votre passage dans la diplomatie ?
Quand je suis parti, tout était bien.
Quand vous êtes parti ?
De la diplomatie, tout était bien.
En quelle année ?
En 90. Je suis parti de la diplomatie en 90 pour être, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, directeur de cabinet du gouverneur de la ville.
Et donc, avant 90, les diplomates étaient mis dans des très bonnes conditions.
Mais oui, nous avions de locaux d'ambassade qui étaient propres, bien. Nous avions des salaires... que je dirais entre guillemets internationaux, qui permettaient à un diplomate congolais vivant à New York ou au Japon de vivre comme les Japonais ou comme les Américains. Mais aujourd'hui, le problème est plus criant.
Il y a un syndicat des diplomates, le syndicat des diplomates congolais, qui réclame un statut particulier pour les diplomates.
Je viens d'apprendre qu'il y a un syndicat, mais généralement, en diplomatie, on n'est pas syndiqué. Mais le statut particulier, non, les diplomates ont un statut particulier. Il n'y a pas un autre statut particulier à créer.
Comme les médecins, les magistrats.
Non, ils ont déjà au départ, lorsque vous travaillez aux affaires étrangères ici à Kinshasa et qu'on vous désigne en poste diplomatique, vous avez un statut particulier.
Donc ils n'ont pas raison de demander un autre statut particulier.
Ça n'a pas de sens. Ce qu'ils doivent demander, c'est l'amélioration de leurs conditions, c'est tout.
Bon, peut-être une façon de se faire entendre.
Peut-être bien. Mais jusqu'à quelle mesure ils ont raison, je n'en sais rien.
Des difficultés que vous avez rencontrées dans votre métier de diplomate?
Non, aucun.
Aucun. Donc tout était parfait.
Mais enfin, je ne peux pas à la fois être jugé parti, mais si je fais appel à mes souvenirs, j'avais rencontré aucune difficulté.
Les relations étaient bonnes avec les Congolais qui vivaient dans les pays dans lesquels vous avez travaillé.
Excellente. D'ailleurs, moi, une fois que j'étais à La Havane, à Cuba, où il y avait à peine à cette époque-là, parce que c'était il y a très longtemps, en 77, il y avait à peine une bonne dizaine de Congolais, de Zaïrois à l'époque, qui étaient des anciens rebelles, ou les Maïs ou quelque chose, des anciens rebelles de Kisangani. Mais curieusement, lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé un accueil fantastique. Ils ont oublié nos clivages politiques et venaient tout le temps nous voir à l'ambassade, nous inviter chez eux. Donc, on vivait en famille.
Comment vous vous êtes retrouvé dans la diplomatie?
Ah, comment je me suis retrouvé dans la diplomatie? Encore une fois, de manière tout à fait aléatoire, par hasard.
Par hasard, comment? C'est quelqu'un qui vous a pris dans son cabinet ou quelqu'un qui vous a emmené?
Quelque chose de ce genre-là. C'est-à-dire que je travaillais, comme je vous l'ai dit, comme rédacteur en chef à la Tribune africaine. Et quelqu'un est venu un jour me dire, mais ce que vous écrivez m'intéresse. Est-ce que vous ne pouvez pas venir dans un cabinet, faire le même travail, mais pour d'autres personnes, au lieu que ce soit un travail pour le public? J'ai dit, bon, je vais essayer, j'ai essayé. Et de là, je suis parti dans la diplomatie.
Et ça marchait sans problème? Vous vous êtes plus dans...
Professionnellement, sans problème. Statutairement, sans problème non plus. Et sur le point de relations humaines, sans problème.
Vous vous êtes fait beaucoup de relations?
Oui, je ne peux pas me vanter de mon carnet d'adresses, mais il est quand même assez fourni.
Assez fourni.
Oui.
Radio Capi, grand témoin.
Alors, monsieur Yema, vous êtes marié, vous nous avez dit, vous avez combien d'enfants?
Beaucoup. En bon congolais, je remplis...
En bon cubain ou congolais?
En bon congolais, parce que là, c'est... J'essaye de remplir l'espace vacant du pays.
Ah, bon, je ne dis rien.
Non, ne soyez pas effrayés, c'est pas colossal non plus.
Ah, d'accord. Alors, vous avez travaillé aussi dans l'administration publique.
Dans une entreprise publique. Oui, pendant une vingtaine d'années, j'étais directeur administratif.
Aujourd'hui, vous êtes à la retraite.
Oui.
Comment vous vous occupez? Qu'est-ce que vous faites maintenant?
Mais curieusement, j'ai pensé que la retraite m'ennuierait, mais je me suis rendu compte, au contraire, que cela me donne plusieurs possibilités de m'occuper de moi-même. Jusqu'à maintenant, je me suis occupé des autres. À partir de ma retraite, je m'occupe de moi-même. Et...
En faisant quoi? Vous passez vos...
Beaucoup de choses. Bon, j'essaye un peu seulement, hein, de me débrouiller dans des petites affaires. J'essaie aussi de beaucoup écrire, parce que comme j'ai embrassé cette carrière, entre guillemets encore, cette carrière d'écrivain, d'auteur, j'écris des livres et ça me prend beaucoup.
Des livres sur quoi?
Mais surtout, j'ai écrit un livre sur le personnage historique qu'est Franco. J'ai écrit un livre que je vais publier bientôt.
Par rapport à ce livre sur Franco, vous étiez très proche, Franco et vous?
Très proche, non, mais je l'ai suivi. Sa musique m'intéressait et j'ai suivi sa carrière. Bon, alors maintenant j'ai fait un autre livre sur les événements du 4 janvier 59 à Léopoldville. C'est-à-dire, j'ai vécu ces événements en tant gamin. Maintenant que je suis devenu adulte, je réfléchis sur cet événement, donc le regard de l'enfant
vous
que j'étais.
Vous avez encore le souvenir,
voilà,
de ces événements-là?
Oui, le regard de l'enfant que j'étais et celui de l'adulte que je suis devenu se confrontent pour faire un livre.
Ce sera votre deuxième publication ou bien avant ça vous avez publié déjà?
Bon, avant j'avais fait de petits romans feuilletons dans les journaux, mais ça je compte pas tellement. Ça c'est mon deuxième livre qui est fin prêt, mais j'ai un troisième qui est un roman qui a comme décor la cuvette centrale à l'époque où le Congo n'était pas encore une colonie.
Alors par rapport à votre travail de chroniqueur musical, vous avez été un ancien chroniqueur, comment vous jugez le travail de nos chroniqueurs aujourd'hui?
Très intéressé. Hein, parce que je pense qu'ils doivent prendre du recul sur ce qu'ils font. Or, généralement, ils prennent cause et effet pour les personnes qui sont censées, peut-être, entre guillemets, critiquer. Je pense aussi qu'il y a trop d'empruntance entre ces chroniqueurs-là et les musiciens.
C'est pas une bonne chose?
C'est pas une bonne chose parce que ça crée une sorte de dépendance. Et dans les métiers du journalisme, la dépendance à une opinion ou à une personne quelconque n'est pas une bonne solution.
Est-ce que vous continuez à analyser un peu la musique, l'évolution de la musique congolaise?
Bon, un peu moins. J'analyse.
Ça ne vous intéresse plus?
Ça m'intéresse, mais un peu moins. Je m'occupe plutôt à analyser la politique de ce pays et la vie sociale.
Donc vous avez quitté le monde de la musique. Vous quittez petit à petit le monde de la musique.
Mais je n'oublie pas.
Ben, si je vous demandais une chanson que vous aimez aujourd'hui.
Vous savez, on dit beaucoup de choses, beaucoup de mal sur cette personne. Je vais oser la citer, Kofi. Je pense que dans la jeunesse actuelle, c'est la personne qui a, pour moi, hein, c'est mon opinion,
oui,
le plus de talent et qui met beaucoup d'intelligence dans ce qu'il écrit dans la musique. Et j'aime ses mélodies.
Ben, certaines personnes pensent qu'il y a trop d'obscénité dans ses textes.
Vous savez, il ne faut pas juger un musicien par une œuvre. Il faut juger un musicien par l'ensemble de son œuvre. Si vous prenez l'ensemble de l'œuvre de Kofi Olomide, il y a des choses fantastiques, des chansons comme Henriquet, des chansons comme, j'en perds même les titres, qui sont formidables, de belles mélodies, de belles paroles, de belles réflexions. Mais s'il lui arrive maintenant pour suivre le cours de l'histoire, pour faire comme tout le monde, parce que maintenant c'est tout le monde qui fait ça, parce qu'on s'imagine que c'est une voie qui permet à vendre un peu plus des disques. Quand on parle de banalité, d'obscénité, on a le plus de monde, donc on achète plus. Même si dans son esprit il n'a pas cette intention, mais il joue le jeu, il fait comme tout le monde, il veut vendre ses disques.
Et une façon de Kofi que vous aimez parmi tous ces albums qu'il a sortis?
Henriquet. Parce que ma femme s'appelle Henriette.
Ah, ok. Ben, on va vous faire plaisir en vous proposant cette chanson d'Henriquet de Kofi Olomide.
Là-bas, fallait-il que je m'en souvienne? Petite fille, tu vois, on n'oublie pas, je n'oublie pas. Bembe, le vrai, Bembe, c'est vrai, pas vrai, joyeux des arisima, l'amour, bolingo, l'amour des allées richesses, Zambé Sangisa, c'est un angana oyarike, ayate koti kangai, awanakati amote manangai, asi a changé ma kambo, a komi singai moto mosusu, a soe le yamba. Bembe, le vrai, Bembe, c'est vrai, pas vrai, joyeux et zararissime, amour, bolingo, l'amour et zalé richesse, Zambé Sangisa. Et c'est un gana oyarike, ayate koti kangai, awana kati a mote mananga, asi a changé ma kambo, a komi singai moto mosusu, a sourire yamba, a komi singai yungambo, isi a mpamba okala kinai, a kati a mote ma kiroshima, arike. Mama loba kasuka kitoko eza mabele Sans doute ezali mpona na mon éternité Plus belle des fleurs bleues, je mette sa belle enrique Mana gana ike barrique, sako mananga yo banga liwa Yaro ike, karol, mana lala kate Ici à Congo, Gana Zokoko Bosanate, Wana Zangambo Ndoli, Mon ami Yokeli Yimawa. Je voudrais tant être toi, pour être aimé comme je t'aime. Mama Lomba Kasuka Kitoko Eza Mabele, Sûrement Ezali Bonalwa Mon Atelorike. Ma plus belle chanson d'amour, te mette sa belle envie que Banangari Kalinganga, Akumanango Bangaliwa, Yoro Ike, Karol, Banalala Kate, Miss Yakongo, Banazoko Kobo Sanate, Banazanga Mbombe, Banangari Kedivi Bawa. Je voudrais tant être toi, pour être aimé comme je t'aime. On a un village de l'eau.
Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Raoul Yema Dilala. Il est ancien journaliste et ancien diplomate. Alors, est-ce que vous ne projetez pas, par exemple, un jour d'ouvrir une maison de presse, par exemple, comme mais vous avez travaillé?
Mais c'est comme si vous avez lu dans mes pensées. Je suis sur le point justement de lancer un hebdomadaire. J'espère que ça marcherait. C'est dans les pipes.
Un hebdomadaire qui parlerait de quoi?
D'information générale.
Générale, musique, sport, politique.
Politique, économie, sociale. Information générale.
Et une petite question sur la politique actuelle du pays. Comment vous jugez cette situation qui se vit à l'Est aujourd'hui?
C'est une situation dramatique et attristante. Mais je ne sens pas, hein, excusez-moi de le dire très honnêtement, je ne sens pas cette préoccupation ici à Kinshasa. Je ne sens pas que nous sommes un pays en guerre. Dans l'attitude de gens, dans la vie de gens, dans le point de vue de gens, dans les prises de position politiques de gens, je ne sens pas que nous sommes en pleine guerre. On devait se mobiliser autrement que tel que nous le faisons maintenant.
Autrement, c'est-à-dire quoi? Faire quoi, par exemple?
Mais lorsqu'on sait que son pays est attaqué, parce que c'est le cas, même si on nous dit que c'est une question interne, c'est une guerre interne, mais nous savons très bien que ce n'est pas le cas. Mais lorsqu'on sait que son pays est attaqué, non seulement on la défend, non seulement on le protège, mais on essaie aussi de retourner la monnaie de sa pièce à la personne qui provoque cet état de choses. Bon, jusqu'à aujourd'hui, nous nous plaignons beaucoup auprès des Nations Unies, auprès de communautés internationales. Mais qu'est-ce que nous faisons? Je ne parle pas de hommes politiques, mais nous, citoyens congolais concernés par ces malheureux événements, qu'est-ce que nous faisons?
Mais qu'est-ce qu'on devrait faire?
Je vous pose la question.
Non, qu'est-ce qu'on devrait faire?
Pour une fois, renversons le rôle.
Je sais que vous avez été journaliste, mais pour l'instant, c'est moi qui vous pose des questions. Mais qu'est-ce que la population civile devrait faire?
Écoutez, voyons dans l'histoire, dans d'autres pays. Peut-être que l'exemple est mal choisi, mais je prends quand même cet exemple. Qu'est-ce qui s'est passé en France lorsqu'il y a eu l'occupation allemande? Il y a eu la résistance. Est-ce que la résistance était une histoire de politiciens? Est-ce que la résistance était une histoire de partis politiques? Est-ce que la résistance était une question des originaires d'un point ou d'un autre? C'était une affaire nationale. Tout le monde s'est battu, chacun par ses moyens, pas forcément fusil à la main, mais chacun par ses moyens s'est battu contre cette occupation et ne pense que nous devons faire la même chose.
La solution, la population doit se mobiliser, c'est ça?
Oui. Et pas la population, le peuple.
Le peuple.
Je fais une nuance entre la population et le peuple. Le peuple, parce que lorsque je parle de la population, c'est simplement le nombre de personnes. Et lorsque je parle du peuple, je prends non seulement les personnes, mais leur esprit aussi.
Mais c'est une situation.
Leur âme aussi.
C'est une situation qui dure quand même, hein. Cette situation de l'Est depuis 94, je dirais même. Que cette partie du pays est vraiment, connaît tout le temps des rébellions, des guerres.
Vous savez, je vais être terre à terre. Je prends un exemple banal. Si vous avez 7 costauds dans votre parcelle, le voisin ne viendra jamais vous attaquer. Mais si c'est une parcelle où il n'y a que des filles, quand il y a un moindre petit incident, le voisin vient saccager la maison. Parce
attendez,
que ça vient...
les filles, elles sont aussi fortes, elles ne vous en faites pas.
Oh, fortes moralement, oui.
Mais aussi, aujourd'hui, on a des femmes très fortes physiquement.
C'est une façon de parler, mais ouais. Vous avez parfaitement compris que s'il n'y a pas une armée de dissuasion, on sera toujours l'objet des attaques.
On doit réformer l'armée.
Forcément. Il faut dans ces pays, il faut une armée de dissuasion. Que les gens, avant de vouloir se frotter à nous, se disent attention, là-bas, si on se frotte, on se pique.
Mais pour réformer l'armée, ça risque de prendre beaucoup de temps.
Je laisse la chose aux dirigeants et aux politiques. Moi, je ne suis qu'un petit penseur.
Non, mais vous dites que tout le monde doit se mobiliser, le peuple doit se mobiliser. Justement, ça sera une contribution de votre part.
Je suis là dans mon rôle de penseur, je pense.
Mais ça sera une contribution de votre part.
Oui, c'est ma contribution, je pense. Je pense qu'il faut, une armée de dissuasion.
Alors, monsieur Yema Dilala,
Vous arrivez quand même à prononcer ce nom.
Oui, hein. D-I-E. Moi, je lisais ça D-I. Je lisais D-I, mais vous m'avez corrigé D-I-L-A-L-A. C'est un nom doux.
Pardon?
C'est un nom doux, D-I-L-A-L-A.
Mais c'est un nom bien congolais parce que...
Non, de quelle province?
Attendez, je veux y arriver. Mon père était originaire du Bas-Congo. Ma mère était originaire de l'Équateur. Mais comme je vous l'ai dit au départ, ils étaient quinois, donc ils n'ont pas fait cas de cette différence de provenance de province.
Mais est-ce que ça signifie, ça a une signification particulière, Yema Dielala?
Buvez cette orange.
L'orange, c'est Lala?
Oui.
Comme Lilala?
Oui, en Kikongo, Lala, c'est une orange.
C'est une orange.
Yema, c'est buvez, sucez.
En Kikongo?
Oui. Yema Diela, ça veut dire buvez cette orange, sucez cette orange.
Et c'est vous l'orange?
Il paraît. Pour mes parents, en tout cas, j'étais l'orange.
Pas pour les amis, pas pour les connaissances? Pas pour votre famille?
Très peu de personnes ne connaissent le sens de mon nom, donc tant mieux.
Parlons un peu de l'état de nos ambassades à l'étranger. Aujourd'hui, beaucoup de nos ambassades ne ressemblent pas à celles d'autres pays. Comment expliquer cela? Parce que ça aussi, c'est un problème des moyens.
Bien sûr. Bien sûr,
les moyens doivent provenir du pays, ça provient du pays ou bien ça provient...
Non,
ce sont les moyens de l'ambassade,
mais l'ambassade ne fait pas de recettes, parce que même les recettes consulaires de l'ambassade, c'est pour les trésors publics, donc l'ambassade, elle toute seule, ne fait pas de recettes. Donc l'ambassade émerge dans les budgets de l'État. Toutes les ambassades, comme tous les fonctionnaires d'ailleurs du pays, sont payés par l'État. Toutes les ambassades, le fonctionnement, les paiements des salaires de diplomates, tout ça, c'est le pays.
Mais je sais que les ambassades règlent les problèmes des Congolais qui sont à l'étranger, non? Moyennant quelque chose, quand quelqu'un vient par exemple pour un passeport, pour un document, c'est pas gratuit, c'est payant.
Mais ça représente rien. Et puis de toutes les façons, si l'ambassade utilise cet argent directement à la source, c'est un détournement, parce que c'est l'argent dit trésor. L'ambassade vend des timbres consulaires. Et ces timbres consulaires-là n'appartiennent pas à l'ambassade. Les timbres appartiennent à l'État congolais. Et l'argent de timbres consulaires doivent être versé au trésor public.
C'est quand même désolant pour un grand pays comme le Congo de voir que ces ambassades...
Et puis de toutes les façons, l'argent de passeport ou de visa, qu'est-ce que ça représente par rapport au fonctionnement d'une ambassade? Rien du tout.
Certaines ambassades ont des dettes de plus de 20 ans. Donc là, ce problème se posait déjà à votre époque.
Ne me responsabilisez pas.
Non, je ne me responsabilise pas. Vous avez travaillé.
J'ai connu ça aussi. Et ce n'est pas par rapport à l'ancien ou au nouveau régime que je parle. C'est par rapport à l'État congolais, à la pérennité de la fonction de l'État. L'État, c'est l'État, dirigé par X ou Y. L'État congolais reste l'État congolais. Donc, je ne vois pas ça par rapport au régime passé ou par rapport au régime actuel. Je dis, l'État doit faire face à ce genre de dépenses qui sont de dépenses obligatoires et régulières.
Et comme ça, lorsqu'on ne paye pas son loyer, beaucoup d'ambassades se retrouvent dans la rue, sont déguerpies.
C'est fréquent. Il y a les ambassades qui sont dans la rue, un peu partout dans le monde ici. Les ambassades congolaises qui sont dans la rue.
Mais qu'est-ce qu'il faut pour essayer un peu de valoriser qu'on donne
priorité à l'image de marque qu'on offre à l'étranger, et cette image de marque passe par les ambassades à qui on doit donner les moyens de s'assumer et de s'assurer.
Et il y a une autre question qu'on soulève souvent, c'est que les diplomates qui sont nommés ou les ambassadeurs, ils n'ont pas qualité.
Bon, là, je dois peut-être vous expliquer un peu, hein, brièvement, comment ça marche. L'ambassadeur peut être un fonctionnaire des affaires étrangères qui a gravi les échelons, mais le chef de l'État a le pouvoir discrétionnaire de nommer n'importe quelle personne qu'il estime ambassadeur. Donc, il y a une différence entre, par exemple, un conseiller d'ambassade et un ambassadeur. Le conseiller d'ambassade doit être un fonctionnaire des affaires étrangères, tandis qu'un ambassadeur, il peut être militaire, il peut être commerçant, il peut être professeur.
Mais il faut qu'il ait quand même des notions sur la diplomatie, sur les relations internationales.
Pas forcément, même quand on voit les ambassades de grands pays comme la France et l'Amérique, ce ne sont pas toujours des diplomates de carrière qui sont nommés ambassadeurs.
Mais est-ce que ça ne devrait pas être comme ça?
Selon les règles connues, non. C'est une fonction qui qui est varolisée, comment dirais-je plutôt, c'est une fonction que seul le chef de l'État peut confier à quelqu'un qui l'estime. S'il a l'estime pour une personne, il se dit, bon, cette personne-là convient à représenter l'État congolais à l'étranger, il est nommé ambassadeur. Il n'y a pas de critères spécifiques pour la nomination des ambassadeurs. Par contre, pour les diplomates, il faut être quelqu'un de la maison.
Mais vous n'avez pas travaillé aux affaires étrangères, vous avez été diplomate.
Si.
Vous m'avez expliqué, on a compris comment ça arrivait. Comment vous êtes arrivé là.
Mais j'ai un numéro de matricule. Hein. Ne vous en faites pas.
Mais lorsque cet ambassadeur-là n'arrive pas à bien faire le travail, les diplomates ou les gens qui travaillent avec lui dans le cabinet ne peuvent pas demander son remplacement. Ça se fait pas?
Ça,
politique.
Non, on fait pas de la politique là-bas. Vous savez, une ambassade est une antenne de la République à l'étranger. Et ici, au pays, à Kinshasa, il y a un ministère qui gère toutes les ambassades. Et dans ce ministère, il y a plusieurs directions. Il y a une direction administrative, une direction des inspections. Il y a plusieurs directions économiques, etc., etc. Bon. C'est à Kinshasa, au ministère des Affaires étrangères, qu'on juge de la production de l'ambassadeur, et c'est à partir d'ici qu'on peut prendre éventuellement des décisions le concernant.
Alors, monsieur Raoul Yema Dilala, c'était un plaisir de partager avec vous pendant ces quelques minutes.
Tout le plaisir a été pour moi.
40.
Je vous remercie.
Minutes. Peut-être un mot à tous ces auditeurs qui, grâce à cette émission, ont permis de vous découvrir. Peut-être certains entendaient juste parler de vous comme ça, Yema Dilala. Et aujourd'hui, ils ont essayé de vous découvrir un peu plus en profondeur. Qu'est-ce que vous leur dites?
Je leur dis d'abord merci de suivre Radio Kwapi et de me suivre. Je leur dis aussi que si ces quelques moments leur ont permis de me découvrir ou de me redécouvrir, j'en serai que très honoré. Encore une fois, merci.
Merci et bon dimanche à vous.
Je vous en prie.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Raoul Yema Dilala. Il est ancien journaliste et ancien diplomate. Merci à Bob Landou qui est à la technique, au micro, Kéline Kouté. Vous trouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bon dimanche à tous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.